Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée.
Notre président Emmanuel Macron a tweeté hier soir « La République ne tolérera jamais la haine ». C'est juste un extrait de ce tweet suite aux événements de Bayonne. Et ce sondage que l'on vous propose ce matin, la haine est-elle en train de gagner le pays? Vous continuez de réagir, 68% de oui actuellement sur ce sondage. Vous pouvez réagir par Twitter sur sudradio.fr ou sur la page Facebook de Sud Radio. Et nous recevons Laurent Jacobelli qui est porte-parole du Rassemblement National et Nadir Karia qui est président de l'association Banlieue Plus.
Un octogénaire a tiré hier des coups de feu contre la mosquée de Bayonne, blessant deux personnes, dont une grièvement, une bonbonne de gaz et une arme ayant été retrouvée dans sa voiture. L'homme, inconnu des services de police et de renseignement, a reconnu les faits et avait été candidat au départemental de 2015 sous l'étiquette du Front National. Ce week-end, c'est un élu du RN qui a été tabassé par des antifas à la terrasse d'un café à Nîmes. Il y a quelques jours, Emmanuel Macron aurait, devant son cercle rapproché, tenu à alerter sur les amalgames entre les questions d'immigration, de radicalisation, de communautarisme et de laïcité qui conduirait à la stigmatisation brandissant la menace de la guerre civile. Il y a un an, en octobre 2018, Gérard Collomb, alerté par les notes des services de police, déclarait lors de son départ de la place Beauvau « Aujourd'hui, on vit côte à côte. Je crains que demain, on puisse vivre face à face. La haine est-elle en train de gagner le pays ?» C'est la question qu'on se pose ce matin sur Sud Radio. On va commencer avec vous, Nadir Karia. Diriez-vous que nous sommes dans une période de tension communautaire? On l'a vu hier à Bayonne, et politique, on l'a vu à Nîmes.
Alors, je dirais communautaire, non. C'est ce qu'on essaie de nous faire croire. De tension depuis facilement 30 ans, oui. Je pense qu'il y a urgence à prendre la mesure de ce qui se passe en France. Monsieur Macron, dans ses discours d'avant-campagne, pendant la campagne, tenait des propos qui avaient l'air intéressants, dans le sens où il nous faisait croire qu'il allait changer les choses et tout modifier pour rendre la vie plus belle des Français. On s'aperçoit qu'en fin de compte, c'est pas du tout le cas, malheureusement. Il y a une urgence. On fait partie, nous, les responsables associatifs des quartiers populaires, de ce qu'on appelle aujourd'hui les lanceurs d'alerte. Ça fait longtemps qu'on parle de la situation des quartiers populaires. Donc les quartiers populaires sont la France, je voudrais le rappeler, même si on parle de territoire parfois, une sémantique qui n'est pas propice à cette réalité, ce sont la France. Et dans cette France-là, il y a des gens qui vont mal, parce que socialement, on a fait en sorte de les laisser dans cette condition. On a fait en sorte de ne pas les intégrer. Ce n'est pas eux qui ne se sont pas intégrés à la société, c'est la société qui ne les a pas intégrés. Et il y a un souci, il y a un lien avec aussi l'histoire de France et notamment la guerre d'Algérie. Et je ne veux pas excuser certaines choses, mais j'aimerais qu'on explique certaines choses pour comprendre ce qui se passe. Et tant qu'on ne cherche pas à comprendre ce qui se passe, on n'arrivera pas à trouver de solution.
Laurent Jacobelli, est-ce qu'on est aujourd'hui dans une période de tension et de tension communautaire comme à Bayonne, ou tension politique comme à Nîmes?
Qu'il y ait aujourd'hui un climat de violence et de tension, je crois que c'est indéniable. Est-ce que vous me permettez quand même de faire une petite parenthèse pour penser en ce moment aux deux victimes de l'attentat d'hier? J'espère qu'elles vont se remettre. Je crois que le pronostic vital n'est pas engagé.
A priori, on a eu le maire de Bayonne, Jean-René Etchegaray, qui disait que même pour la personne dont le pronostic vital était engagé, elle avait été opérée et que les choses s'amélioraient. Donc on leur souhaite évidemment le plus prompt et complet rétablissement.
Mais je pense que c'était important de le dire. Vous savez, ceux qui ont depuis des décennies détricoté la société française ne sont probablement pas les mieux placés aujourd'hui pour s'étonner de ce qui se passe. Ça fait malheureusement très longtemps que nous avertissons. Si on continue comme ça, si on continue à ne pas assimiler ce qui arrive en France, si on continue à ne pas contrôler l'immigration, si on continue à mettre les problèmes sous le tapis en les niant, comme par exemple, c'est vrai, un islamisme radical qui progresse. Bref, si on a des gouvernements qui regardent passer les trains et qui n'agissent pas pour préserver la communauté nationale, eh bien forcément, à un moment, il y aura des tensions. Malheureusement, nous en sommes là et j'espère que le président de la République va enfin agir pour qu'en France, aujourd'hui, quelqu'un soit français, intégré aux valeurs de la République et qu'on ne tolère pas, effectivement, tout les radicalismes, je dis bien tous les radicalismes, et que des mesures soient prises. Il faut aujourd'hui faire respecter la loi, faire respecter nos valeurs, notre identité, et ça veut dire contrôler ce qui se passe sur notre territoire et arrêter avec ce laxisme, cette lâcheté parfois, par peur d'être traité d'islamophobe, etc. Il faut aujourd'hui prendre des mesures, parce qu'en France, on ne peut pas tolérer certaines choses.
Nadir Karia, on ira au 0826-300-300, où ça réagit énormément.
Malheureusement, je pense que le Rassemblement National a aussi sa part de responsabilité dans cette situation.
Ah, expliquez-moi.
Je vous l'explique très simplement avec un regard de citoyen lambda qui regarde les informations et qui regarde la plupart de vos interventions. et notamment celle de vos collègues du Rassemblement National. Vous réagissez malheureusement à l'actualité, aux faits divers. Vous n'êtes pas force de proposition, vous êtes force de division. C'est un constat que je fais comme beaucoup de Français depuis longtemps. Vous avez très longtemps montré du doigt les différents partis politiques de gauche ou de droite sur leur incapacité ou alors sur l'hypocrisie qu'ils pouvaient avoir, notamment sur des discours et des propos. Mais je vous rappelle que par rapport à vos responsables, beaucoup d'entre eux, vous disiez que vous étiez un parti différent, un parti propre. On le voit par rapport aux affaires. En fin de compte, vous êtes un parti comme les autres. Pire encore, vous alimentez les peurs et les haines parce que votre propos principal, c'est celui de diviser les Français par rapport au fait de mettre ce venin depuis maintenant 30 ans dans la société française, notamment sur la peur du migrant, de l'immigration, de rappeler tout à l'immigration, et comme si l'immigration était quelque chose de dangereux, alors que pas du tout. Et donc, malheureusement, par rapport à ce qui s'est passé notamment à Bayonne hier, et le fait que la personne est l'un de vos sympathisants, une personne qui adhère à vos idées et à votre conception de la France d'aujourd'hui, est passée à l'acte. Donc ça, c'est dommageable. Donc j'espère que vous aurez conscience de ce qui s'est passé. Bien sûr, vous n'êtes pas responsable de tout, mais je vous dis, vous êtes responsable en partie de cette situation.
Laurent Jacobelli.
Oui, vous savez, ces propos sont un peu exagérés. Je ne recevrai pas de leçon, monsieur, croyez-le, de quelqu'un qui soutient publiquement le Hamas, qui est une organisation terroriste. Ah, c'est bon, oui. Quelqu'un qui parle de lobby juif, quelqu'un qui parle de lobby gay, quelqu'un qui remet en cause les attentats du 11 septembre et quelqu'un qui dit, une semaine après les attentats de Charlie, moi je ne suis pas Charlie, moi j'aime Dieudonné, moi j'aime Erdogan. Monsieur, vous n'avez aucune leçon à donner, vous êtes vous un fossoyeur de la République, vous êtes vous monsieur un diviseur des Français, vous êtes vous monsieur un communautariste exacerbé et vous souffler sur les braises de la haine du juif, la haine des homosexuels et souvent la haine de la communauté française non musulmane, enfin des Français non musulmans. Donc je n'ai aucune leçon de se voir de votre part. Vous, tout le monde pourra aller voir vos tweets. Oui, vous exprimez publiquement, monsieur, vous êtes quelqu'un de haineux, quelqu'un d'extrémiste et quelqu'un de radicalisé.
Non, mais c'est très intéressant parce que je vois que vous avez affaire à votre téléphone, donc on vous donne les éléments par téléphone. Vous n'êtes pas capable d'argumenter.
Non, mais pour citer, monsieur, je ne connais pas vos écrits par cœur, croyez-le, je ne vous lis pas.
C'est très bien parce que vous reprenez les choses de la fachosphère, mais c'est très bien, ça prouve que vous n'êtes pas un homme de terrain. Vous savez, je pense que les leçons...
Êtes-vous pour ou contre le Hamas ?
Non, mais non, on n'est pas là pour ou contre. Je n'ai jamais tenu officiellement des propos en disant que j'étais pour le Hamas.
Vous voulez que je vous les cite ?
Non, mais il n'y a pas de souci. On peut le faire en off avec les journalistes ici présents. Vous n'allez pas dévier la question et notamment le fait de vos responsabilités.
Mais vous soutenez le terrorisme, monsieur.
Pas du
donc
tout.
Donc ne me donnez pas de leçon morale, moi je le condamne.
Vous avez résumé exactement ce que vous faites depuis 30 ans. Vous dites tout et n'importe quoi. Vous êtes dans la division. Moi, je vous invite à aller dans les quartiers. Je vous invite à faire des maraudes sur Paris. Vous savez, je pense que vous ne savez pas ce que c'est que la solidarité, la fraternité. Là, vous êtes dans la division et en plus, le pire là-dedans, c'est que vous récupérez des choses sur le net et vous balancez ça comme
le
ça.
Le Hamas est un mouvement de libération.
S'il vous plaît, messieurs, on y reviendra monsieur évidemment dans quelques instants. Nadir Kaya, président de l'association Banlieue Plus, et Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement National. Écoutez-vous, messieurs, 9h27 et 30 secondes. On revient dans quelques instants, évidemment, sur ce sujet. Et vous êtes toujours les bienvenus pour réagir à notre sondage. La haine est-elle en train de gagner le pays ? On en parle sur Sud Radio.
Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée.
Juste pour vous annoncer qu'à 9h30, dans 15 minutes maintenant, j'aurai le plaisir de recevoir Laurent Decaux, le roi folle. Il nous ramènera au 14e siècle sur l'histoire aussi très perturbée de ce roi Charles VI, mais exceptionnellement passionnante. Pour l'heure, on revient sur ce sondage. La haine est-elle en train de gagner le pays suite au tweet d'Emmanuel Macron hier qui disait, je cite, « Je condamne avec fermeté l'attaque odieuse perpétrée devant la mosquée de Bayonne. J'adresse mes pensées aux victimes. La République ne tolérera jamais la haine. » La question, on vous la pose. La haine est-elle en train de gagner le pays ? Vous réagissez sur les réseaux sociaux Sud Radio, Twitter, bien évidemment, le site sudradio.fr ou la page Facebook de Sud Radio. Et on continue avec nos invités, Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement National, et Nadir Kaya, président de l'association Banlieue Plus.
Et direction le 0826 300 300, nous avons Alain d'Agde qui attend depuis un moment. Alain, bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue sur Sud Radio.
Bienvenue, merci. Je voulais simplement dire une chose, c'est que quand la loi 1905 avait été faite, elle avait été faite à l'époque où il y avait une hégémonie catholique qui était très forte, qui gérait à peu près une grande partie de la République et de l'État, et que la République a voulu reprendre dessus pour mettre des lois. Or, depuis, à l'époque, il n'y avait pas tellement de religions étrangères, à part le catholicisme, le protestantisme, les juifs, etc. Mais je voulais dire par là qu'il n'y avait pas de religion qui voulait conquérir une autre. Malheureusement, depuis effectivement qu'il y a eu énormément de migrations algériennes et compagnie. On a eu effectivement une apparence et des faits, malheureusement, comme les deux tours de New York, comme effectivement les attentats du Bataclan, comme les guerres qui règnent maintenant dans tous ces pays, qui ont fait que les gens qui viennent de ces pays-là ne se sont pas mis d'accord sur cette loi de 1905 et ont un pouvoir de vouloir conquérir un petit peu, d'imposer leur loi, d'imposer, mettons, la charia, ça je ne l'invente pas, et etc., etc., au sein d'un pays.
Alors,
ce pays, effectivement, un peu peur.
Alain, on va faire réagir nos invités. Nadir Kaya, une chose importante, la loi de 1905, certains voudraient revenir dessus. Est-ce qu'il y a besoin de l'adapter? Parce que je vous posais la question à tous les deux.
Alors moi personnellement, concernant la loi originelle donc,
du 9 décembre 1905,
elle me va très bien. Elle me va très bien. Au contraire, elle est censée nous garantir le respect, la justice par rapport à ce qu'on peut être aujourd'hui en tant que Français, croyant, non-croyant. Donc à mon niveau, j'ai pas de souci là-dessus. Par contre, ce qu'a dit le monsieur tout à l'heure, avec tout le respect que je lui dois, je trouve ça un peu confus de faire le lien entre l'immigration, les Algériens, le 11
non, il
septembre...
Dire que non, il voulait dire non. Qu'à l'époque, quand on a fait la loi de 1905, il y avait très peu de musulmans, de bouddhistes,
oui,
etc.
Non, mais,
en France.
Mais après, là, il a utilisé des termes qui nous font comprendre un peu ce qu'il voulait dire, ce qu'il avait un peu dans le fond de sa pensée, mais bon, c'est pas très grave. Moi, je voudrais rassurer les Français, il n'y a pas de musulmans qui souhaitent remplacer d'autres croyances ou imposer la charia. Effectivement, au sein de la communauté musulmane, comme partout, il peut y avoir des individus extrémistes et radicaux. Ça, je le conçois, il n'y a pas de débat là-dessus, ça reste des êtres humains. Mais il y en a partout. C'est là-dessus qu'il faut insister. Donc si aujourd'hui on est cohérent, si on veut se battre contre l'extrémisme ou la violence et la haine, il faut le faire partout et à tous les niveaux. Et là aujourd'hui, moi j'ai toute une liste de mosquées qui ont été taguées depuis 2013. J'en ai une trentaine, mais bon, vous allez sur le net, vous tapez simplement mosquée, taguée, agression musulman, et vous avez toute une liste. Moi j'ai pas de souci à dénoncer... les violences envers les gays, envers les juifs, envers toutes les communautés ou toute autre personne, mais qu'on le fasse tous ensemble.
Ou tout autre bâtiment de culte.
Tout à fait. Les églises, les cimetières qui sont régulièrement aussi profanés. Donc à ce niveau-là, moi, j'ai pas de débat. Donc je comprends qu'on me traite d'islamiste, c'est normal, j'ai un faciès d'arabe, je viens de banlieue, je parle aussi d'islam parce que ça dérange aussi. Je remercie Sud Radio de nous donner la parole parce que ça fait 30 ans qu'on nous a confisqué la parole et qu'on nous a mis de côté. Et j'ai entendu encore la déclaration de certains politiques, voire même de responsables médiatiques, dire où sont les musulmans. C'est comme Charlie Hebdo, hein. Au sein de notre association, on était 40, on nous a dit clairement, entre guillemets, où sont les arabes et les noirs. Ah ben ils sont là, mais je vous rappelle qu'on est minoritaire en France. Mais on nous a demandé où vous étiez. J'étais là, il y avait même France 2 qui était là, qui nous avait filmé avec notre association. Bien sûr, moi je ne suis pas Charlie, je le dis clairement. C'est pas un magazine que je lis, je n'adhère pas à leur façon de rire. Mais je pense qu'il y a des limites dans tout. Mais les minorités sont là, simplement on ne leur donne pas la parole.
Laurent Giacomelli, voulez-vous revenir sur la loi de 1905?
Non. La loi de 1905, ça ne s'est pas fait facilement au début.
C'était la loi de séparation, pas de l'Église, mais des églises et de l'État.
Voilà. Et de l'État. Souvenez-vous, replongeons-nous quelques années en arrière, nous n'étions pas nés. Hein. C'est vrai que ça a été difficile à accepter pour les catholiques, par exemple, au début, qui avaient une forme de mainmise sur l'école et sur la société française. Ils l'ont accepté, parfois de mauvaise grâce. Aujourd'hui, on n'en parle même plus. Ça a été vrai aussi pour un certain nombre de Français de confession israélite. Aujourd'hui, l'application de cette neutralité, de cette laïcité, est compliquée à mettre en marche pour une frange, c'est vrai, minoritaire, de nos compatriotes musulmans. Eh bien, ce n'est pas une raison pour céder. Voilà, quand il y a des signes revendicatifs, quand 25% des musulmans disent placer la charia au-dessus des lois de la République, c'est un problème pour la République. Et donc, il faut trouver les solutions pour ne pas s'enferrer, pour ne pas rester dans cette situation.
Donc, pour vous, il faudrait revenir à une laïcité de combat version 1905.
Il faut une laïcité de conviction, pas une laïcité de lâcheté, pas une laïcité qui détourne le regard. Quand aujourd'hui, il y a une forme de voile qui n'est pas simplement l'expression d'une philosophie, mais qui est un acte revendicatif, qui est « je place l'islam politique au-dessus de la République », eh bien, le rôle du politique, le rôle de la République, c'est de dire « non ». Pas dans l'espace public. Quand il y a en France des attentats de personnes qui se réclament d'un État islamiste, eh bien, il faut être implacable. C'est clair, c'est du bon sens, c'est la défense de ce que nous sommes, de nos valeurs et de la République.
Alors, ce qui est intéressant, c'est ce que vous venez de dire, ça prouve que vous ne connaissez pas du tout les quartiers populaires et la communauté musulmane en France. Je vais vous donner un exemple très simple. La plupart des musulmans de France vivent dans les quartiers populaires, on est d'accord là-dessus ?
Oui, enfin, ils vivent
le premier parti, partout, le premier parti dans les quartiers populaires, c'est l'abstention. Donc quand vous dites soi-disant que les femmes qui porteraient le voile seraient un signe de revendication politique, ce n'est pas vrai, parce que s'il y a des gens dans la communauté musulmane qui portent le voile, la plupart d'entre eux ne votent pas. Je suis le premier, moi, à parler de citoyenneté.
Mais ils ne votent pas parce qu'ils ne reconnaissent pas la République, monsieur?
Non, pour pas du tout. Ils se reconnaissent
pas. Vous êtes d'accord avec moi?
Non, ils reconnaissent la République. Et preuve en est, quand on parle des fameuses mères voilées, c'est des mères qui sont impliquées parce qu'elles accompagnent leurs enfants dans les sorties scolaires. Et quand vous allez dans les quartiers populaires, j'ai entendu des choses qui sont aberrantes de la part de monsieur Zemmour. Mais bon, quand il peut dire ça en face de politiciens ou de certains journalistes, mais il ne peut pas dire ça des représentants associatifs des quartiers populaires. Parce que quand il dit que la Seine-Saint-Denis, c'est la charia où il n'y a plus de juifs, c'est de la diffamation, c'est un mensonge. Et moi, j'invite toutes les personnes qui sont en Seine-Saint-Denis et qui sont de confession juive et qui vivent dans ces quartiers-là à porter plainte quand on entend ce genre de choses.
Ah, je vous ai dit, effectivement. C'est une grande arme. Hein. Mais monsieur, vous n'êtes pas tous les musulmans de France. Est-ce que vous savez, par exemple, qu'il y a une centaine de musulmans qui ont signé une tribune contre le port du voile, notamment lors des sorties scolaires?
C'était dans Marianne, d'accord.
Vous voyez, ce ne sont pas des dangereux extrémistes, ce ne sont pas des gens
anti-musulmans,
ce sont des musulmans.
Non, mais c'est très bien.
Donc admettez.
Mais est-ce que vous avez vu que dans cette tribune, il y avait des personnes qui avaient signé deux, trois fois?
Admettez que cette question fait débat et que vous n'avez pas la vérité absolue, monsieur.
Mais j'ai jamais prétendu le contraire. Je vous donne un point de vue.
Et des dizaines de milliers de Français de confession israélite sont partis de Seine-Saint-Denis, monsieur. Oui, effectivement, ils sont partis à cause des violences quotidiennes.
Ça tombe très bien. Je suis aussi dans la Seine-Saint-Denis. Je vous donne rendez-vous quand vous voulez.
Ne niez pas la réalité.
Je nie pas la réalité. Au contraire, je vous invite à la regarder en face. Je vous invite quand vous voulez du côté de la Courneuve-Bobigny. Je vais vous présenter des médecins, des commerçants, des amis qui sont de confession juive. On va aller du côté d'Épinay, on va aller à la synagogue d'Épinay, si vous voulez, quand vous voulez, et vous allez répéter ce que vous venez de dire là. Et ce serait intéressant d'avoir les médias parce que vous dites des choses que vous ne comprenez pas et que vous ne maîtrisez pas.
C'est trop facile, monsieur.
Mais c'est une réalité, je suis désolé. Vous êtes de la Seine-Saint-Denis?
D'accord, et alors il n'y a que vous qui avez le droit de parler, mais quand vous dites des énormités, monsieur,
Vous voulez
qu'on rappelle encore les énormités que vous dites?
Non, je ne parle pas de droit de parler.
Donc, s'il vous plaît.
Vous parlez de la Seine-Saint-Denis, vous ne la connaissez pas.
N'avancez pas avec un faux nez. Dites qui vous êtes vraiment.
Je voudrais,
est-ce que vous défendez vraiment
le président de la Chambre de plus et le quartier, de confession musulmane?
Est-ce que vous condamnez, monsieur, les attentats islamistes qui ont eu lieu sur le sol français?
Je crois que vous êtes trompé, vous êtes comme moi, vous êtes un invité, vous n'êtes pas un journaliste. Le journaliste.
Donc vous ne condamnez pas.
De quoi?
Les attentats islamistes qui ont lieu sur le sol français.
Mais je condamne tous les attentats. Vous avez condamné celui d'hier?
Oui.
Bah heureusement, je crois que vous avez été parmi les plus rapides politiquement. Mais bon, on comprend très bien qu'il n'y avait pas de la sincérité. C'était simplement de vous démarquer de votre sympathisant qui, lui, a commis cet attentat. On vous a jamais entendu aussi rapidement condamner un attentat.
Et nous condamnons tous les attentats très rapidement, monsieur.
J'ai une liste de plus de 30 mosquées, on ne vous a jamais entendu les condamner.
Justement, est-ce que ce n'est pas terrible dans un pays comme la France? Alors, on a parlé des mosquées qui ont été taguées, ou évidemment des coups de feu hier à Bayonne. Les cimetières chrétiens et les églises sont les bâtiments de culte les plus profanés. Aujourd'hui, on est en danger quand on se promène avec une kippa en France. Est-ce que ce n'est pas la preuve que la haine est en train de gagner dans ce pays?
C'est la preuve que les pouvoirs publics n'ont pas joué leur rôle. C'est qu'à force de nier les problèmes...
Je suis tout à fait d'accord avec vous.
À force de nier les problèmes, à force, une fois encore, de détourner le regard, on a laissé, effectivement, s'installer une situation où certains Français ne veulent plus vivre avec certains Français. Et c'est inacceptable.
Je pense que c'est très dangereux ce que vous dites.
Je termine, et puis vous répondrez si vous en êtes d'accord. Le fait d'avoir laissé en France, s'installer notamment une immigration non contrôlée, qui ne laisse plus la place à l'assimilation,
comme c'était le cas des générations précédentes.
Eh bien, on a des gens qui arrivent en important leur culture, en important leur mode de vie, et qui ne s'adaptent plus à la société française. Ça crée des incompréhensions, et il faut arrêter cette spirale infernale. Il faut à nouveau faire en sorte qu'en France, on vive avec les valeurs de la France.
Vous mélangez tout, parce que preuve en est...
Et vous savez tout, vous êtes formidable. Hein.
Non, pas du tout, mais moi je ne suis pas en costume, je n'adhère pas à un parti qui propose des choses qui sont évidentes. Et en plus, je vous l'ai déjà dit...
Et vous pensez que le 11 septembre n'a pas existé, je sais, c'est compliqué.
Non, pas du tout, on peut développer, je vous ai dit, j'ai pas de tabou, je parle de tout.
J'ai bien compris.
Mais là, bon, là, vous dites tout et n'importe quoi. Quand vous parlez des migrants qui importeraient leur culture,
la réalité que les Français constatent.
Notre association fait également des maraudes. Je vous invite, quand vous voulez, à Porte d'Aubervilliers, Porte de la Chapelle. On va aller voir ces migrants et vous allez voir qu'ils n'importent rien du tout, juste l'envie de vivre dignement et qu'ils vivent comme des rats. Ça, c'est une réalité. Et en plus, on les cache en Seine-Saint-Denis. Comme je vous dis, la Seine-Saint-Denis, je la connais très bien. On cache la misère aux Français à partir de Porte Clichy jusqu'à Porte Vincennes. On conditionne tous les migrants. Et ces migrants, il y a de tout. Il y a des musulmans et des non-musulmans. Je vous invite à discuter avec eux. Vous allez voir c'est quoi la difficulté.
Vous poser une question pour conclure le débat, il nous reste 4 minutes. Quand Emmanuel Macron fait allusion à la guerre civile, est-ce que ça vous fait peur?
Non, mais moi, ce qui me fait peur, c'est qu'un président arrive au pouvoir avec des propos assez nuancées, qui ont pu intéresser des gens de gauche et de droite, et qu'aujourd'hui, il n'arrive toujours pas à régler les problèmes. En France, on a des armoires avec des études de sociologues, d'experts depuis des années qui sont là, qui vous expliquent la situation en France et éventuellement comment résoudre les problèmes. C'est qu'il y a un manque de courage politique. Moi, j'invite M. Macron à aller au bout de ces fameuses phrases quand il dit qu'aujourd'hui, il va tout changer, bah, qu'il le fasse avec des acteurs de terrain et qu'il arrête de gigoter en fonction de certains lobbies ou certaines enquêtes d'opinion publique. Aujourd'hui, il y a des réalités. On peut régler en partie certains problèmes en France. Il faut simplement du courage et de la volonté politique.
Est-ce que Emmanuel Macron fait erreur en évoquant ceci, même si c'était en off, mais que l'affaire est sortie ?
Non, mais qu'il y ait un climat de violence extrême et de friction et de tension insupportable dans ce pays, c'est une réalité. Il a raison de le dire. François Hollande l'avait dit, M. Collomb l'avait dit. On ne peut pas les soupçonner d'être proches du Rassemblement national. Mais moi, ce qui m'ennuie toujours, c'est ces pompiers pyromanes. C'est-à-dire ceux qui laissent perdurer des situations, ceux qui aggravent les situations. Moi, je fais partie d'un mouvement qui, depuis 40 ans, est lanceur d'alerte en disant la société française va mal. Ce qui se passe aujourd'hui va fracturer la société française. Nous faisons des propositions depuis 40 ans. Et depuis 40 ans, on nous traite de tous les noms, on nous met de côté, on nous traite d'islamophobes, de plein de choses. Tout ça parce qu'on ne veut pas prendre les décisions sous prétexte de ne pas vouloir froisser tel et tel électorat ou de ne pas vouloir nuire à une certaine image propre à la bien-pensance. Eh bien, aujourd'hui, il faut du courage, il faut qu'Emmanuel Macron arrête de parler et qu'il agisse. Oui, en France, il y a un danger de communautarisme, il faut lutter contre. Oui, en France, il y a une fracturation, il faut lutter contre. Et c'est des mesures très concrètes, hein, d'ailleurs. Pourquoi n'a-t-il toujours pas fermé les 150 mosquées islamistes qui sont sur notre sol ? Pourquoi n'a-t-il toujours pas expulsé certains imams venus d'étrangers qui prêchent la haine parfois? Eh bien, tant que ces mesures-là n'auront pas été prises, il y aura doute et ça nuira à l'ensemble de la nation et notamment aux Français de croyances musulmanes.
Moi, si je peux intervenir sur un mot qui a été employé, c'est le communautarisme. C'est des mots qui sont utilisés par les médias et par certains hommes politiques. Le communautarisme, c'est la structuration de personnes qui ont des intérêts par rapport à leur ethnie, par rapport à certaines choses, notamment sociales aussi. Mais quand on fait croire aux Français que les banlieues ou les musulmans sont communautaires, c'est totalement faux. Ce sont parmi les communautés les moins organisées. Donc on ne peut pas dire qu'ils alimentent le communautarisme. Vous voyez ce que je veux dire ? Par contre, oui, c'est vrai que l'islam se développe parce qu'il y a de plus en plus de musulmans aujourd'hui. Et c'est ça qui dérange en fin de compte.
On termine ce débat. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, je relisais le sondage de l'IFOP. C'était seulement 27% des musulmans qui pensaient que la loi islamique, la charia, devrait s'imposer par rapport aux lois de la République.
J'ai dit 25, vous voyez, j'étais un peu...
Vous avez des juifs et des orthodoxes qui pensent la même chose par rapport à leur religion.
C'est très possible, parce qu'on m'a envoyé un texto que vous aviez dit 50, mais a priori, c'était pas le cas. C'était Valérie Boyer qui avait dit ça, a priori.
Merci de ne pas nous confondre.
Oui, le micro.
En termes de pourcentage, en tout cas, dont moi je suis sûre, c'est celui de votre sondage que l'on vous proposait. La haine est-elle en train de gagner le pays ? Vous répondez pour l'instant oui à 68%. 9h45, merci à Nadir Kaya, président de l'association Banlieue Plus, et Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement National, d'avoir été nos invités ce matin. À suivre, eh bien, on va changer complètement de tout, de sujet et d'époque. Laurent Decaux est en train de prendre place dans notre studio. On va parler de son roman, Le Roi Folle, que je suis en train de dévorer avec beaucoup d'envie, de passion et de gourmandise. À tout de suite sur Sud Radio.